VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Ouagadougou, midi à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication a suspendu pour 3 mois les émissions interactives sur les radios. Le CSC dit craindre les dérapages verbaux alors que le pays doit tenir des élections en octobre. Cette suspension est contestée par les responsables des médias, notamment Justin Koulibaly, président du Centre national de presse Norbert Zongo. On l'écoute au micro d'Idriss Fall.
Au niveau du centre national de presse Norbert Zongo, à savoir essentiellement la situation des journalistes du Burkina, le syndicat autonome des travaux de l'information et de la culture cinématique et de la société des éditeurs de la presse privée, nous sommes contre cette mesure. Parce qu'en réalité, c'est un recul assez grave par rapport à la liberté d'expression et de presse. Surtout que cette mesure intervient 4 jours après la journée de la commémoration de la journée internationale de la presse, où au niveau national, par exemple, nous avions comme thème médias d'État ou médias de service public, quel avenir et quelle perspective. Depuis le combat que nous avons mené après l'assassinat de notre confrère Norbert Zongo, en pleine lutte à l'époque, avec ce qu'on appelait Radio Entreparler, le gouvernement de la 4e République avait pu interdire ça. Mais par la suite, avec les différentes luttes, les médias ont pu quand même, la société civile, les relations des droits de l'homme et autres, on a pu arracher quand même les espaces de liberté afin de permettre aux citoyens de s'exprimer et de donner leur opinion sur la gouvernance politique. Pourquoi nous sommes étonnés que le CSC, sans même approcher les médias, a décidé de suspendre donc cette émission interactive sans même concerter qui que ce soit. Nous pensons que c'est une volonté affichée de faire en sorte que les citoyens ne puissent pas même se prononcer. Et surtout, cela intervient souvent dans le cadre de ce que les anciens dirigeants appellent l'exclusion.
Justin Koulibaly, président du Centre national de presse Norbert Zongo au Burkina Faso. Au Mali, les populations du Nord s'organisent pour se défendre face à l'insécurité, et ce d'autant plus qu'elles ne bénéficient d'aucun soutien de l'État malien, absent sur le terrain. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Au moment où les autorités maliennes et la communauté internationale se battent pour préparer la signature de l'accord d'Alger, les populations victimes des récentes attaques de la part des groupes armés souffrent. Bari Aminata Touré, ressortissante du Nord.
On va parler de paix, mais il faut aussi la sécurité. Et le développement, c'est la sécurité. Nous avons besoin de routes, nous avons besoin de toutes les autres infrastructures et nous avons aussi besoin de sécuriser les personnes et les biens. Et on a parlé de comité de veille. Moi, je sais qu'il y a des comité de veille au niveau de la région de Tombouctou. Il y a un comité de veille à Tombouctouville, il y a un comité de veille à Ber.
Comme les localités citées, plusieurs autres s'attellent à mettre en place des structures de ces genres afin de se mettre à l'abri des attaques ennemies. Les réfugiés qui sont de retour aussi demandent le soutien du gouvernement malien.
Parce qu'il y a des retours volontaires qui sont partis avec leurs moyens. Ils sont retournés avec leurs moyens. Depuis qu'ils sont retournés aussi, personne n'a pas songé à eux. Il faut songer les pauvres populations. Ils ont mis leurs moyens pour partir, ils ont mis leurs moyens pour...
Ce qu'on peut faire, c'est de dire à l'État de s'assumer, de faire son travail. C'est à lui d'administrer. C'est lui qui doit administrer et ça, on l'a dit, on le dira.
Rares sont les localités dans le nord du Mali qui ne souffrent pas aujourd'hui après les récentes attaques. Les plus exposées sont dans le cercle de Gundam.
Celui qui veut aller cultiver son champ, il ne peut pas le cultiver s'il n'y a pas de pain. Celui qui veut faire son transport, il ne le fera pas sans la paix. Les gens du Nord, elles souffrent non seulement de ces attaques, mais aussi de la pauvreté. Elles n'ont plus rien aujourd'hui, elles sont laissées à elles-mêmes. Regardez les gens du Mbounan et de Bintangogula, là où ils sont aujourd'hui. Leurs boutiques ont été pillées. Ils ne peuvent plus venir à Gunda. Et ils n'ont aucun soutien. L'État est absent. Les organismes sont absents. Les cadres de Saboko sont absents. Donc, ils sont laissés à eux-mêmes.
Face à l'insécurité grandissante, plusieurs imams, chefs coutumiers et chefs de village de la région de Mopti ont fui leur village pour venir se réfugier dans la capitale malienne, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, l'opposition suspend sa marche de protestation initialement prévue pour ce lundi après plus de 2 semaines de manifestations à Conakry et dans d'autres villes qui ont fait au moins 3 morts. Le chef de file de l'opposition, Sélou Daling Diallo, a en effet annoncé l'annulation de la marche pour donner une chance à sa rencontre mardi avec le président Alpha Condé pour discuter de la crise politique dans le pays. Des précisions avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Une crise politique qui commence à donner des sentiments de déception en Guinée.
Je pense que les Guinéens ne méritent pas vraiment ce qui est en train de se passer dans ce pays. Ça fait 5 ans, les choses avancent mollo. Je pense que les acteurs politiques doivent se retrouver autour de la table.
Les manifestations de l'opposition sont bel et bien légales, dans la mesure où ils manifestent pour un droit.
Moi, je pense qu'on ne devrait pas en arriver là. Il faut que les gens mettent là-bas la tête. Qu'il essaye de s'asseoir autour d'une table de dialogue.
Pour Ibrahima Souri Traoré, éditorialiste, c'est une occasion pour les deux hommes de trouver une issue à la crise.
Je crois que tout le monde attend beaucoup de cette rencontre. Il faut qu'ils se comprennent. Il faut que le président donne une volonté de dialoguer. Qu'il rassure son opposant. Et aussi, il faut que la GC le comprenne que ça ne peut pas se régler dans la rue.
Comme la crise à Kalia Camara, pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant. En RCA, le gouvernement de transition et 10 groupes armés ont signé un accord de paix dimanche pour mettre fin à 2 années de violence et en fait des milliers de morts. Le point avec Anne Albertson.
Le représentant spécial de l'ONU, Babacar Gaye, a déclaré « Je veux croire que l'engagement est sincère et que nous allons nous engager dans la construction de la paix progressive ». Les médiateurs onusiens ont précisé que toutes les parties ont convenu de désarmer formellement, de renoncer à utiliser des armes pour leurs revendications et de s'engager dans un processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration. L'accord comprend également une clause interdisant l'utilisation des enfants comme soldats ou travailleurs forcés. Les rebelles musulmans ex-Séléka avaient pris la capitale Bangui en 2013, provoquant des attaques et des représailles souvent brutales entre milices rivales musulmanes et chrétiennes. La violence armée n'a pas complètement disparu aujourd'hui, mais l'ordre a été plus ou moins rétabli depuis que la présidente de transition, Catherine Samba Panza, reçoit le soutien de la force de maintien de la paix des Nations Unies.
Au Burundi, les protestations continuent contre le 3e mandat pour le président Pierre Nkurunziza. L'opposition estime que les élections législatives et présidentielles ne pourront pas avoir lieu comme prévu, respectivement fin mai et fin juin. Et ses leaders réclament une modification du calendrier électoral. Ils promettent aussi de boycotter les scrutins si le chef de l'État persiste dans son intention de briguer un nouveau mandat. On écoute Chovinio Mugwengezo, président du mouvement Arusha qui participe aux manifestations, au micro d'Idriss Fall.
On n'est pas candidat, même ceux-là qui ont présenté leur candidature, c'est à une seule condition que Pitaguru Ziza retire son 3e mandat.
Vous faites allusion à Agathon Rwasa?
Non, ils sont plusieurs, il n'y a pas que Agathon Rwasa, ils sont plusieurs, ils sont 8 candidats aujourd'hui.
Et qu'en est-il des législatives dont la campagne a démarré d'ailleurs?
C'est vraiment une pseudo-campagne, elle n'a pas démarré parce que, au regard du contexte qui prévaut aujourd'hui, la campagne n'est pas possible. Seulement, lui, il a osé procéder au lancement officiel de la campagne, mais en réalité, chez nous, au Burundi, elle ne sera pas possible.
Donc, vous pensez qu'il n'y aura pas d'élection le 26 mai et le 26 juin?
Justement, c'est ça qui fait objet de débat. Au cas où il renonce à son 3e mandat, nous exigeons aussi un glissement du calendrier. Parce que, au regard du contexte actuel, les élections ne peuvent pas avoir lieu dans les délais fixés par le calendrier électoral.
Et s'il persiste?
Je crois qu'il ne pourra pas réussir à faire face au monde entier, à commencer par les Nations Unies, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, l'Union africaine, et probablement à l'issue du sommet de Dar es Salaam, l'East African Committee ne pourra pas lui permettre de continuer à revendiquer ce 3e mandat, qui est tout à fait contraire à la Constitution et aux accords d'Arusha, d'ailleurs, qui ont pu assurer une certaine stabilité dans notre pays.
Chovinio Mugwengezo, président du mouvement Arusha au Burundi. Conflit au Yémen, nouveau raid de l'aviation de la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre les rebelles chiites houthis aujourd'hui. Et ce, à la veille du cessez-le-feu humanitaire de 5 jours qui est censé commencer demain. Les houthis ont annoncé hier qu'ils acceptaient cette trêve. Par ailleurs, selon l'AFP, la rébellion chiite affirme aujourd'hui avoir abattu un avion de la coalition saoudienne de la province de Saada dans le nord. Cette déclaration a suivi de peu l'annonce par le Maroc de la paix perte d'un appareil F-16 au Yémen. Et pour terminer, le président français François Hollande est à Cuba depuis hier soir en visite officielle. Il est le premier chef d'État occidental à visiter l'île communiste depuis l'annonce par le président américain Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro en décembre dernier de leur intention de mettre fin à plus de 5 décennies de rupture des relations bilatérales pour cause de guerre froide. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info.